Les grands événements du Collège de France.
Merci de votre présence ici au Collège de France pour ce cinquième exposé du cycle Réenchanter les maths à l'école. Je vous rappelle que tous les exposés précédents sont disponibles sur le site du Collège de France et que nous sommes en direct sur YouTube. On va connecter Monica dans une seconde, mais je profite de cette affiche pour vous annoncer donc la totalité du cycle. Vous voyez qu'on a rajouté une conférence parce qu'on a la chance d'avoir à Paris pendant quelques semaines le professeur Naama Friedman de Tel Aviv University, de l'Université de Tel Aviv, qui nous parlera. Elle fait tout un cycle de conférences en lien avec ma chaire et la chaire de linguistique du professeur Luigi Rizzi, et dans ce cadre, elle va parler de la dyslexie le 3 juin, et en lien avec notre cycle de conférences, des difficultés pour les nombres et les lettres, et des dissociations entre dyscalculie et dyslexie, le 10 juin. Donc je vous invite vivement à participer à cette conférence, qui sera en anglais, à 17h30, je crois, le mardi 10 juin. Bien, alors aujourd'hui, nous allons parler du goût des mathématiques et de la méthode de Singapour. Je suis très heureux d'accueillir Monica Niagoy, qui est une passionnée des mathématiques et de la beauté des mathématiques, et qui va nous la faire partager. Monica a suivi un cursus scolaire en France, mais aussi en Asie, aux États-Unis. Elle est titulaire d'une licence de mathématiques et philosophie à l'université de Georgetown, ensuite d'un master en mathématiques pures, et enfin d'un doctorat en enseignement des mathématiques à l'université de Maryland. Elle a d'abord enseigné les mathématiques à Georgetown. Elle est devenue directrice de programme à la National Foundation. Je passe quelques étapes. Elle est maintenant consultante internationale en mathématiques et en éducation mathématique. Elle donne de nombreuses conférences et consultations aux États-Unis, mais aussi en Europe, en Moyen-Orient, en Afrique. Elle est l'auteur d'une série de livres sur deux livres sur l'algèbre élémentaire, très intéressant, qui s'appelle Planting the Seeds of Algebra, planter les semences, le début de l'algèbre chez les petits-enfants, et je pense qu'on va en entendre parler aujourd'hui, comment faire en sorte que l'algèbre vienne assez naturellement, finalement, aux enfants, alors qu'on sait que c'est une étape difficile. Et puis aussi d'un excellent ouvrage sur les fractions, qui s'appelle Unpacking Fractions, qui explique tous les aspects du concept de fraction et pourquoi les rassembler est difficile pour les enfants. Et plus récemment, en français, puisqu'elle vit maintenant à Paris, en France, elle a publié en français une série Maths, la méthode de Singapour, la librairie des écoles, qui est directement utilisable par les enseignants qui veulent adopter ce qu'on appelle, mais on va en entendre parler peut-être à tort, la méthode de Singapour, qu'elle a donc revisitée dans le contexte français. Donc elle vit à Paris, elle est depuis quelques années membre du Conseil scientifique de l'éducation nationale, que j'ai mis en place depuis maintenant 8 ans. Elle a joué dans ce Conseil scientifique un rôle déterminant en attirant l'attention sur la qualité de l'enseignement des mathématiques à Singapour. Vous savez que Singapour fait partie des pays qui sont systématiquement au plus haut niveau international dans les enquêtes PISA ou TIMSS équivalent. Et on se pose tous la question, comment ça marche? Qu'est-ce qui marche dans la méthode de Singapour? Le programme, le curriculum français de mathématiques au primaire a été révisé dans le sens de ce qu'on peut appeler peut-être la méthode de Singapour, en grande partie grâce aux interventions successives de Monica dans le Conseil scientifique et auprès des ministres successifs. Et donc c'est le sujet d'aujourd'hui, comment cultiver le goût des mathématiques avec la méthode de Singapour. Merci d'accueillir Monica Niagoy.
Merci beaucoup. Pendant qu'on connecte mon ordinateur, je voulais savoir, par curiosité, parce que ça m'intéresse toujours, mon public, qui est ici et spécialiste en mathématiques? D'accord. Et qui est là pour le plaisir? Ah, c'est la majorité. Parce que j'étais pas sûre qu'il allait être dans le public. D'accord. Et une autre question. Je demande souvent à mon public, quand vous étiez à l'école, et quand vous avez appris les mathématiques scolaires, est-ce que c'était un plaisir? Levez la main. Et si vous avez souffert des mathématiques, levez la main. D'accord, half-half. Très bien. Et qui a envie de se réconcilier avec les mathématiques et de se réenchanter? C'est pour ça qu'on est là. Super. Je vais faire de mon mieux. Alors, je ne sais pas encore où je vais placer ça, peut-être là. Alors, donc j'ai déjà demandé. Je ne sais pas si on m'entend quand je suis loin, peut-être pas. Peut-être je devrais mettre ça ici. Mmh. Voilà. C'est mieux. Sinon, je suis entre les deux. OK. So, welcome. Bienvenue. Bienvenidos. En todas las lenguas. Tous, dans toutes les langues. Peut-être j'aurai la chance à la fin de vous parler. Alors, je regarde l'heure. Très bien. Donc, réenchanter, c'est un mot que j'aime parce qu'effectivement, il y a le ré. Il faut savoir que les enfants, d'après les sondages, ils n'aiment, c'est pas vrai qu'ils n'aiment pas les maths, ils aiment les maths. Ils arrivent aux mathématiques avec beaucoup de questions, à l'école d'ailleurs, avides de connaissances, curieux de découvertes. Ils aiment les nombres, les calculs, ils trouvent ça assez magique, ils adorent compter, ils aiment les formes. Les formes, c'est la géométrie, ils appréhendent le monde avec les ballons et les cubes. Donc l'arithmétique et la géométrie se sont mariés dans l'histoire pour donner naissance à l'algèbre. Donc disons que jusqu'en collège, la plupart des enfants sont équipés, on le sait d'après les études de Stern, etc., avec la propensité, l'inclinaison pour faire des maths. Mais il y a quelque chose que nous faisons ou que nous ne faisons pas tout au long de leur scolarité qui fait que, arrivé en terminale, très peu aiment les maths. La plupart sont fâchés. Ils n'aiment plus les maths. Une explication que j'aime beaucoup, c'est Arthur Avila, qui est un médaillé Fields, qui a dit « Nous n'enseignons pas les maths de façon à faire rêver les gens, les enfants. » Et pour moi, faire rêver, c'est vraiment... Les maths, c'est ça. C'est le voyage, c'est l'aventure, c'est les surprises, c'est le jeu, c'est le fun, c'est l'enchantement. Comme a dit Stanislas, je suis émerveillée par les maths. Et il dit... Et c'est un grand médaillé Fields, peut-être moins médiatisé que celui qu'on connaît bien, Villani et Cédric, mais il dit qu'on a vidé les maths de son essence et que c'est une litanie de choses qu'on apprend par cœur et qu'on ne comprend pas. Et quand le cerveau ne comprend pas, il n'est pas intéressé. Le cerveau aime faire du sens à ce qu'il fait. Un exemple de tous les mots que vous avez vus que j'aime, dans la vidéo que j'ai fait pour la série de conseil scientifique qui s'appelle Le plaisir d'enseigner, c'était une séance pour montrer aux professeurs que maintenant que les fractions commencent au CE1, que c'est tout à fait possible. Et donc, je vous la laisse voir, c'est disponible sur YouTube. Et on commence la séance avec, c'est des petits, hein, 7 ans, ils vont prendre un papier en couleur, ils vont le plier en deux pour faire une demi-carré, pour avoir le mot demi. Ils ont des idées de demi-pomme, de demi-poire, de demi-heure, ils ont des idées. Et la plupart des enfants plient comme cela. Alors bien sûr, on a la discussion, parce que c'est pas oui ou non, juste ou faux, il faut toujours expliquer. Donc ils disent, c'est la même forme, ça se superimpose, ils connaissent pas le mot superposer, donc même forme quand on plie, et parce que cet âge, au cycle 2, c'est l'œil l'instrument, c'est l'œil qui décide. C'est au cycle 3 qu'on commence à décider à partir du raisonnement, et l'œil prend le second plan. Mais, à la fin, je garde la surprise parce que tout le monde pense qu'il y a deux. D'ailleurs, les adultes aussi. Il y avait un prof une fois qui a dit « bon, c'est simple, on peut passer. Okay? » Donc, c'est deux, toutes deux solutions. Et à la fin, après qu'ils ont fait 20 minutes ou 30 minutes de séance, ils ont plié aussi en quatre. Je demande de prendre leur petit papier qu'ils avaient plié en quatre pour trouver un quart. Et ce petit papier permet de trouver les points, le centre du carré. Parce que le carré, on ne peut pas trouver le centre du carré sans mesurer. Et je leur dis, vous allez tracer une droite qui passe par le centre et qui prend n'importe quelle direction, mais pas les plis, cela et cela. Eh bien, ils font toutes sortes de plis, c'est-à-dire ils font la droite à travers le centre. Et qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils plient, c'est pas pareil, ça se superpose pas, mais quand ils coupent et ils tournent, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'ils trouvent? Qu'au lieu d'avoir deux façons de trouver deux demi, ils trouvent une infinité. Et ça, c'est symbolique, c'est ça les mathématiques. Ce que nous voyons, c'est un petit lens, très très petite perspective, mais si nous rentrons dans ce voyage, c'est une infinité de possibilités. Donc, mon objectif dans tout ce que je fais, vraiment, c'est pour insuffler l'amour pour les mathématiques. Cet élément d'émotion et d'amour pour les maths, ça manque souvent. Ça commence au début, mais après, ça manque. Sa beauté, sa puissance et son ubiquité. Donc, maintenant, c'était une petite introduction pour nous réenchanter. Voilà un peu le programme que j'espère pouvoir faire avec vous. D'abord, le cadre, donc. Je vous n'avais pas eu trop le temps de le lire, mais je décompose. Donc le cadre, Il est un pentagone, vous l'avez peut-être vu, c'est très connu, c'est partout quand on parle de la méthode de Singapour ou l'approche de Singapour. Et il y a 4-5 piliers tout autour et puis il y a le centre qui est la résolution de problèmes. Bien sûr, chacun de ces volets, chacun de ces piliers pourrait prendre 3 heures. On va essayer de prendre quelques highlights de chacun. Donc, les 4 points forts qui sont très médiatisés et que vous avez sans doute lu parce que ça fait des années qu'on en parle en France, depuis au moins 2018, quand il y a eu la mission MAT, et on m'a demandé d'écrire quelques pages dedans comme une approche des mathématiques. Donc, les 4 éléments que tout le monde a entendus, mais je vous donne des exemples forts peut-être, c'est le sens. On l'a dit tout à l'heure, je l'ai dit tout à l'heure, quand le cerveau ne comprend plus, ce n'est plus intéressant. C'est les moments de waouh, de eureka, de j'ai compris, ou je vois le lien, ou je vois la raison qui excite l'enfant. Mais quand il doit apprendre, il n'a pas de sens. Donc, une des choses qu'on fait, c'est qu'on raconte des histoires. Parce que le mot additionner, le mot égal, ça n'existe pas dans la langue. Donc, additionner, c'est mettre ensemble, peut-être réunir, combiner. Égal, c'est font, faire, donne. Et progressivement, on donne les verbes et les noms et puis les symboles. Donc, cette distinction de compréhension profonde et compréhension superficielle a été inspirée par les travaux de l'anglais Richard Schemp, qui distingue la comparaison relationnelle. Si je fais des relations, par exemple, si je vois que la soustraction, c'est l'inverse de l'addition, ou que la multiplication est l'inverse de la division, je vois des liens. C'est comme entre les gens, quand il y a des liens qui se tissent, on se souvient, on comprend, ça devient un peu plus profond. Eh bien, si c'est instrumental, ça veut dire que j'ai une litanie, je sais faire des formules, je sais résoudre des problèmes, je sais comment trouver la racine carrée de B2 moins 4AC, etc., pour les paraboles, etc., etc. Mais je ne vois pas les liens, je ne vois pas les maths comme des grandes idées avec plein d'idées subordonnées. Donc, on va regarder un exemple de ce que j'ai étudié et de ce que je fais partout dans mes formations. On va inventer une histoire de division. Et je fais ça avec des parents, je fais ça avec des profs, je fais ça avec des enfants de tous les âges. Donc on invente une histoire de division. Et au lieu de dire, voilà le problème, tu trouves, tu dois inventer l'histoire. Alors bien sûr, pour les enfants, histoire, ça veut dire une situation, problème, un défi, quelque chose qui va demander à diviser. Eh bien, vous êtes en train de penser, bien sûr, à une histoire de division. Peut-être est-ce de ce genre, c'est-à-dire, nous avons 26 élèves, 26 lingots d'or, 26 quelque chose, et on les divise en 4 groupes. Et il y a 2 qui restent. Dans ce cas, les 2 enfants ne peuvent pas aller dans l'un ou dans l'autre parce qu'on explique s'ils sont 5 ou 6 ans. On leur dit que en maths, on prend les mots de la vie réelle comme diviser, partager, mais ils ont des sens précis. Donc diviser veut dire la même chose. Alors que quand on divise quelque chose à manger, papa prend un peu moins, maman prend plus, un enfant aime moins. Donc, on partage, mais pas de façon égale. Donc, ces 2 ne rentrent pas. Donc, qu'est-ce qu'on découvre en faisant des histoires? Que le quotient, et s'ils ne connaissent pas encore le mot, ça arrive au CE2, ils diront le résultat. Très bien, la part de chacun. Et il reste 2. Tout le monde sait dire reste, même si on n'a pas appris ça en maths, il reste. 2e catégorie, qui vient après, c'est un enfant qui dit, par exemple, ça c'est une étude donc en Alexandria, Virginia, ils étaient en CM1, ils disent, mais les caramels sont mous. Donc, je prends les 2 derniers et je les divise en 2. Eh bien, souvent, on se dit, les programmes, les fractions, les nombres décimaux, ça vient après. Non, les programmes, c'est un dénominateur commun sous lequel on ne veut pas y aller, mais au-dessus duquel on peut voler. Un enfant de 5 ou 6 ans peut dire, ah ben, je veux la moitié. S'il y a 3 choses à manger divisées par 2 personnes, ils vont prendre 1, ils vont diviser par 2. Allons-y avec ce qu'ils savent. Donc, ceux-là, ils vont dire 6,5, parce qu'il y a 1,5 d'un 7e caramel, et il reste 0. Plus tard, ils apprendront 6,5. Mais ces élèves le savaient parce qu'ils étaient déjà en CM1. Bon, donc, je fais la pause et je demande, qu'est-ce qui est semblable et qu'est-ce qui est différent? Une question qu'il faut toujours demander en mathématiques, parce qu'il faut jongler 2 idées. 1, c'est la même chose, l'autre, différent. Donc, ça fait penser, high-level task. Donc, en quoi c'est différent? Eh bien, on a bien vu, les quotients et les restes sont différents. Pourquoi? c'est dû au fait que les nombres, la variable quantitative est discrète ou continue. Alors, pour ceux qui ne sont pas dans les maths, discret veut dire des choses qu'on compte, comme des gens, des maisons, des nounous, des choses qu'on ne peut pas couper en deux. Et les autres, c'est des choses qu'on mesure. On peut diviser un litre en deux, on peut diviser un cookie en deux, une pizza en deux. Des choses qu'on mesure, volume, surface, longueur. Les enfants comprennent ça, même s'ils n'ont pas les mots. Ils comprennent la notion, le concept. En quoi ils sont semblables? Ça, c'est plus difficile à répondre. Ah ben, les deux sont des histoires de partage. Pourquoi? Parce que si on regarde historiquement les livres de primaire, dans tout le monde entier, hein, partout, pendant longtemps, décennies, plus que des décennies, des siècles, division était au primaire équivalent, on va dire synonyme de partage équitable. Donc, à moitié endormi, nous pensons à ça. Mais, et un autre sens. Et pourquoi est-il important de lui enseigner? Voilà un autre groupe d'élèves qui ont dit 26 élèves vont, et puis ils le modélisent hein, avec des objets, 26 élèves vont dans un parc d'attractions. Ils veulent tous monter sur la montagne russe. Et il y a des voitures avec 4 places. Alors, une voiture arrive, 4 personnes entrent. Ils le modélisent comme ça, ils le mettent en scène. C'est fun. Et puis, le dernier, ils disent, il y reste 2, ils ne vont pas rentrer à l'école, ils font une 7e voiture. Et donc, on trouve, on peut avoir 6, on peut avoir 6,5, on peut avoir 7, dépendant de la situation, du contexte, parce qu'on est dans le concret, là. La méthode de Singapour, et puis on va voir pourquoi. Dès le CP, enseigne les deux. Vous avez 2 enfants ici, Alice et Maëlle. Alice est là, la division de 15 pommes en 3 saladiers, elle cherche le nombre de pommes dans chaque saladier. Maëlle fait le contraire. Il sait qu'il va mettre 3 dans chaque bol et il compte le nombre de bols. Et qu'est-ce qu'on voit? Que dans les deux cas, si on sautait l'histoire, le sens, on voit 2 équations, le bleu et le rouge, identiques. Donc on passe le sens, on va au symbole et on sait résoudre arithmétiquement, mais sans sens. Alors qu'à gauche, c'est la division par quotition, et à droite, c'est la division partition. Les enfants ne l'appellent pas comme ça, ils disent des histoires de partage et des histoires de groupement. Et on fait ça tout au long du primaire. Okay. Donc les deux sens, pour résumer, dans le premier cas, on connaît le nombre de groupes, on ne sait pas combien vont dans chaque groupe, ou la part de chacun. Dans l'autre, c'est le contraire. Parce que pour l'instant, on n'est pas dans la symétrie des deux des dividendes et des diviseurs, hein. On a une histoire. Donc, le dividende et le diviseur, c'est pas pareil. Bon. Faisons un saut maintenant vers, parce que moi, ce que j'aime apporter quand je fais des formations pour les formateurs ou les IEN ou les profs de primaire ou de collège, c'est de leur montrer que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit est le fondement de ce qui viendra après. Soit, nous disons les bonnes choses, nous donnons les bonnes images, les bonnes représentations, les bons contextes pour empuissanter. Je sais que ça n'existe pas, mais j'ai traduit empower. Empuissanter les élèves pour l'avenir, pour les mathématiques abstraites, où il faut tout reconstruire parce qu'on a mal dit ou mal fait les choses. Donc, ça, je fais un saut vers le collège. Ça dépend des endroits, des pays, mais en France, on enseigne la division par une fraction en quatrième, mais ça peut être cinquième ou sixième. Si je quitte le primaire et je n'ai que le partage, donc je suis en train de me dire, mais alors je suis au collège, mais moi je vois les maths, je sens les maths, je comprends. Donc je me crée une petite histoire. J'ai 3 tartelettes et je partage parmi une demi-personne, je ne comprends pas. Et comme ils ne sont pas encore très bons dans la proportionnalité, parce qu'on peut utiliser la proportionnalité, mais on sait bien qu'ils ne sont pas forts là-dedans, c'est dur, parce qu'ils peuvent dire 3 c'est pour un demi, comme 6 pour 1, comme 12 pour 2. Mais ils ne raisonnent pas comme ça, on le sait. Même les adultes ont du mal avec la proportionnalité. C'est un concept, Gérard Vergniaud disait, c'est un concept difficile à définir, parce qu'il y a plein de points d'entrée. Donc, la division quotition ne marche pas. Mais la division, partition ne marche pas, pour dire 3 parts divisées en une demi-personne. Mais si je fais la quotition et je me dis, la part est un demi, j'ai 3 grosses pizzas, je me demande combien de parts de un demi-pizza je peux faire parmi avec 3. Eh bien, je vois bien qu'il y a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez que la division quotition nous sert plus tard. Et même, tout le monde ici connaît la division posée, quelque chose que les enfants se sentent très mûrs, grands quand ils peuvent le faire. En fait, quand on dit combien, quand on pose par exemple 253 divisé par 22, on dit combien de fois 22 dans, ou combien de fois rentre dans, un truc comme ça. How many times it go into, hein? Ça c'est quoi? C'est quotient, il n'y a pas un partage. Donc il y a un changement de modèle et c'est même pas articulé à l'enfant. Il fait des histoires de partage quand il est petit et puis la quotition, la division posée, c'est du quotient. La division, c'est aussi peut-être du quotient. Donc, comme les mathématiques, c'est la généralisation, c'est ça l'algèbre. L'algèbre, la puissance, c'est quand je dis quelque chose pour x, y et z, c'est pas seulement pour trois nombres, c'est pour tous les nombres. C'est ça la beauté des maths. Eh bien, avec les petits, on généralise quand on peut. Je fais des parts de un tiers, de un quart, de un cinquième, de un sixième. Et qu'est-ce que je vois? Que le résultat augmente, mais c'est pas des nombres de pizza qu'on pourrait penser si on fait pas des dessins ou des histoires. C'est le nombre de parts qui augmente en nombre, mais qui se réduisent en taille. D'accord? Donc ça, on voit à droite que la formule émane naturellement, elle émerge naturellement, et on comprend pourquoi on inverse et on multiplie, que vous avez tous appris. 3, je multiplie par 2 sur 1, j'obtiens 6, et je ne comprends pas pourquoi j'ai un quotient qui est plus grand, parce que je croyais que multiplication rendait plus grand et que division rendait plus petit. Vous voyez les problèmes qu'on a quand on passe des entiers au rationnel. Ok. Un autre exemple de sens, des formules que nous enseignons. Combien de gens ont appris des formules sans les comprendre? Et quand on ne les comprend pas, je me rappelle, à la mission maths, on auditionnait plein de gens. Et une fois, quelqu'un a dit une phrase que je dis toujours, c'est que si on comprend une formule, on peut la reconstruire tout de suite. Et c'est vrai, si on sait d'où ça vient, si on oublie, on peut. Alors vous allez dire aujourd'hui, on a le téléphone et on peut tout de suite avoir tout. Oui, mais il faut aussi le savoir avec sens. Donc, je pose une question. Vous avez tous appris au collège que l'aire d'un triangle, c'est 1 demi base fois hauteur. Voilà 4 façons de l'écrire. Bon. Qui, dans sa tête, dans son image mentale, voit pourquoi c'est 1 demi base fois hauteur ou base fois hauteur divisé par 2? Levez la main simplement. D'accord? Qui ne voit pas pourquoi c'est 1 demi base fois hauteur? Voilà. On n'ose pas trop lever la main. Mais pas tout le monde a levé pour oui. Donc il y en a pas mal qui sont non. Ok, on va regarder un petit plaisir. Alors, on prend un triangle sur le géoplan. Ça, c'est un géoplan, un des nombreux matériels pédagogiques. Et je leur demande, faites un triangle. Alors après, on va identifier cette base. Vous voyez pourquoi? Parce qu'elle est parallèle aux côtés. Et donc, c'est plus facile, mais il y a 3 bases. Et on va mettre là hauteur avec un autre élastique. Ce n'est pas parfait parce qu'il n'est pas fin. D'ailleurs, n'importe quoi n'est pas bon. Même si on dessine, même si on met un point, ce n'est pas parfait parce que c'est un concept. Un point ne peut pas être dessiné. Vous connaissez le mouvement bourbakiste d'il y a 100 ans. Et pour cela, on n'a pas représenté pendant très très longtemps parce que rien n'était parfait. Maintenant, le pendulum, le balancier, à la fin du 20e est revenu à « make it real »,« make it visible ». Il faut le rendre réel et visible. Donc, il y a des imperfections, mais ça aide à comprendre. C'est ça l'idée. Donc, on a la hauteur, on la marche, on a mis H. Pour l'instant, ça va. Hauteur, base. Mais, on va mettre le rectangle tout autour. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce rectangle? Que les enfants connaissent. Ils connaissent largeur fois longueur. Hein, parce que c'est facile, on peut compter les carrés. Eh bien, on voit le lien entre la hauteur et la largeur du rectangle. On voit le lien entre la base du triangle et la longueur du rectangle. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Que si je sais calculer longueur par largeur, c'est-à-dire le grand rectangle, mais ce que je veux, c'est le violet. Et on voit que le violet, qui m'intéresse, est un demi du tout. Qui le voit maintenant? Tout le monde, j'espère. Ok? Visualisation, voir. On ne dit pas, tu sens ce que je dis? Tu touches ce que je dis ou tu goûtes ce que je dis. On dit, tu vois ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire. Parce que la vue, elle prime. Alors, il y a toute une discussion aussi pour les mathématiciens qui sont aveugles, et on peut en parler. Mais pour la majorité des enfants, ils doivent voir d'abord. Il y a aussi entender, hein? Me entiendes, en espagnol, on dit me entiendes, tu m'entends. Donc, il y a l'entendre et le voir. Mais la visualisation est fondamentale dans la méthode de Singapour. Bien. Deuxième aspect qui est très connu, c'est le concret, imagé, abstrait. Et ça, c'est inspiré des travaux de Jerome Bruner, un psychologue, mathématicien, pédagogue américain des années 60. Et il avait déjà ces trois étapes, et bien sûr toutes les sous-étapes entrent, parce que ce n'est pas trois étapes claires, mais Singapour a changé les mots pour que les enfants, comme les profs, comprennent. Eh bien, on va faire une petite exploration. Alors, est-ce que j'ai voulu mettre... Oui, je crois qu'il y avait un quote parce que ça va venir. Bon, on va faire une exploration très vite pour ce concret imagé abstrait. Elle va être virtuelle parce que je n'ai pas de matériel pour vous. Mais on va... Ah oui, c'est là, je cherchais la citation. J'ai beaucoup aimé toutes les conférences avant moi et je voyais un lien avec Singapour dans chacune. Et en avril... Marie Amalric, elle a montré toute une conférence pendant une heure sur la construction du nombre, et à la fin, quand elle dit « je vais conclure pour l'enseignement », elle dit cette phrase. Et cette phrase, donc c'est la confirmation, elle dit « dans l'enseignement des mathématiques, il faut donc, après une heure de conférence scientifique sur le cerveau de l'enfant dans la construction du nombre, commencer par une approche concrète, puis progressivement passer à la représentation visuel, imagé, et enfin par des symboles abstraits. Et c'est ça la base. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, souvent on le dit, c'est que Singapour, j'ai pas parlé de l'histoire, parce que j'ai tellement parlé dans le passé de l'histoire, donc je voulais faire des choses nouvelles. Donc vous pouvez voir d'autres conférences où j'ai parlé de l'histoire. Mais quand ils ont construit entre les années 80 et 95, pendant 15 ans, ils ont regardé les recherches, mais surtout ils ont regardé les recherches en pédagogie, dans l'enseignement, et puis les retours des terrains pour voir la réalité des enfants. Et ce qu'on dit souvent, c'est que, waouh, ils ont fait des choix qui maintenant, depuis les 20 dernières années, c'est confirmé par les sciences, par les recherches en neurosciences. Et c'est ça qui est intéressant. Mais bien sûr, ils évoluent chaque fois qu'il y a des nouvelles recherches, bien sûr, chaque nouvelle édition. Donc, on va explorer Pi. Alors, vous avez peut-être vu ça à la télé, parce que je l'ai fait sur Yann Barthès, et ça a fait le tour des réseaux sociaux. Donc, beaucoup de gens ont appris Pi là, mais peut-être vous ne l'avez pas vu. Donc, je demande, qu'est-ce que c'est Pi? On me dit 3,14. J'ai fait ça aussi sur une autre télé, maison des maternelles, et on m'a dit 3,14. Je dis, mais c'est quoi 3,14? Ça vient d'où ce nombre? Eh bien, c'est Pi. Voilà. Voilà comment on répond. C'est drôle. Ben non, c'est pas drôle. Mais c'est drôle souvent dans la société d'être pas bon en maths, mais être pas bon en langue ou en écriture ou en orthographe, c'est pas permis. Mais être pas bon en maths, et c'est dommage, hein, c'est dommage. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je fais venir tout le monde avec des éléments circulaires de la maison, la veille. Ça, c'est des enfants avec qui j'ai travaillé à Barcelone. Et si quelqu'un a oublié, je donne la corbeille à papier. Comme ça, il y a des petits bouchons, il y a des grands, et puis il y a même des hula hoop, comme ce groupe qui avait apporté un hula hoop. Bien. Donc, je leur donne, étape concrète, je leur donne du ficelle et de la ficelle et un ciseau. Et donc, ils ont deux choses à faire. Ils doivent mesurer le diamètre de leur cercle. Ils coupent la petite ficelle, mesurent la circonférence, ils mettent la petite ficelle. Et chacun, quelle que soit la taille, petit ou grand, ils doivent prendre le diamètre et voir combien de fois ça rentre dedans. J'ai fait ça en 3 minutes à la télé, même moins, et les gens étaient « Waouh, c'est ça 3,14 ?» Ce petit truc, c'est quoi? C'est le 0,14. Donc c'est quelque chose de fort, parce que tous les cercles, tous, à toutes les tailles, sont reliés par ce nombre magique. Il a fasciné les mathématiciens depuis toujours. Et encore aujourd'hui, il y a la compétition pour voir combien de chiffres après la virgule on peut trouver. On est dans les milliards. Bon. Et seconde étape, les enfants le dessinent. Ça vient de mon livre où j'ai un peu refait les images que j'avais prises. Et un petit a fait ça, que j'aime beaucoup. Il a fait le cercle, il a mis 1D, 2D, 3D, et là-haut, il dit « extra ». Vous voyez? Extra. Vous ne savez pas comment écrire extra. Bon, donc il y a une façon de se souvenir que c'est 3 fois. Et puis, la dernière étape, quand ils sont plus grands, au CM, on mesure, hein, au lieu de couper la ficelle, on mesure avec le mètre ruban. Chaque groupe donne les mesures. et on calcule à la fin et on voit qu'il y a quelque chose de commun, quelque chose à peu près 3. Eh bien, donc le pi, pour les grands, c'est le rapport de la circonférence au diamètre. Et pour les petits, parce qu'on peut faire ça avec le cycle 2, qui ne peut pas faire ça? Deux ficelles et voir la relation, c'est l'entrée dans la proportionnalité pour les petits. Ils ont déjà des idées de proportionnalité. On dit, par exemple, le nombre de fois que le diamètre s'inscrit autour. 1, 2, 3, comme a fait le petit avec son extra. Voilà. Donc ça, on ne va jamais l'oublier parce qu'on l'a fait. Et donc, c'est une petite expérience du concret imagé abstrait. Un exemple de CP, parce que pi, c'est un peu plus... C'est au collège ou au cycle 3. Mais je crois qu'en France, qu'on fait ça au collège. Donc, au CP, voilà un problème qui n'est pas évident et qui est donné à peu près en janvier-février, la fin du premier fichier. Et donc, vous voyez bien que c'est une comparaison. Alors, l'image, c'est ça. Donc, on donne à l'enfant, donc c'est la représentation verbale où on en parle. Ensuite, on leur donne les cubes, soit déjà prêts, soit ils construisent. Et puis, ceux qui, il y a différentes façons, ils vont décomposer, les comparer un par un, par exemple. Ça, c'est la phase concrète. Ensuite, la représentation qui devient une image, mais vous voyez, quand on dit imager, ça peut être vraiment une image, une photo, mais ça peut être aussi une image avec un matériel. Donc, ils construisent le 9 et le 6, et puis l'espace là, qui est vide, et ce vide est difficile, parce que c'est les 3 blancs qu'on cherche, ils ne sont pas là. C'est pour ça que la différence, la comparaison additive est difficile, parce que la différence, on parle de quelque chose qui n'est pas là. Donc, je le matérialise avec du blanc pour l'élève et il voit que ça différence. Après, on comprend que c'est 9 moins 6, ou on utilise 6 plus 3 égale 9, hein, l'inverse, et je vois la différence. Parce que on sait de Davidov, Vassislav Davidov, le russe, grand didacticien, qui disait « Les longueurs n'intéressent pas les enfants, c'est les hauteurs. Parce que moi, je suis plus grande que mon ami, je suis plus grand. » Et donc, quand on compare des nombres, des quantités, c'est la hauteur, pas la longueur. C'est des petits détails, hein, mais on intègre tout. Deuxièmement, c'est la résolution de problèmes. Il y a un bon nombre de problèmes, mais à l'école primaire, on est surtout dans les problèmes arithmétiques. Donc, je vais me focaliser seulement parce que dans les guides du ministère, c'est les problèmes arithmétiques. Donc, on va regarder quelques aspects des problèmes qui sont importants. Il y a 3 rôles. Premièrement, on résout pour, on enseigne les maths pour résoudre. Ça, c'est le rôle le plus classique. On va tester leurs connaissances par des problèmes. Donc, ça, vous le savez. Mais aussi, on fait la résolution en tant que problème. C'est-à-dire, on donne un problème, pardon, et on enseigne des maths à travers un problème. It's a teaching element, c'est pour enseigner. Et puis le troisième rôle, c'est en tant que compétence, c'est-à-dire on enseigne à résoudre. Vous voyez, il y a 3 rôles. Le premier, vous n'avez pas besoin d'exemple parce que c'est ce qu'on fait, c'est ce que tout le monde fait, et parfois la seule chose. La deuxième, c'est en tant que moyen. Eh bien, cet exemple peut être utilisé à au moins 3 niveaux. Si on veut enseigner, par exemple, comment on trouve le périmètre, les enfants explorent, on a un papier centimétré, et ils voient que c'est toujours la longueur et la largeur, la longueur et la largeur. Eh bien, ils vont dire, et ça m'arrive avec des enfants de CE1 même, sur le géoplan, ils disent, c'est 2, et puis c'est 3, puis comme c'est double, ça fait 2 et 3, 5, 10. Ils ne vont pas faire 2 plus 3 plus 2 plus 3. À force de le faire, on voit. Donc ça peut être le périmètre, ça peut être l'air. On regarde, on compte d'abord, et après on fait un lien entre le nombre de petits carrés et les côtés. Donc on découvre. Et puis, au collège, on peut donner ça et demander quels sont les triangles, les rectangles semblables. Une notion plus difficile, lesquels sont semblables 2 à 2 et pourquoi et comment tu peux le prouver. Donc ça, c'est un exemple où on utilise un problème pour enseigner au moins 3 idées à 3 niveaux différents. Le troisième, c'est ce qui est très connu, c'est la méthode en barre, c'est-à-dire une technique qui aide les élèves et qui est un pas vers l'algèbre aussi, qui aide les élèves à voir un problème difficile, celui-là est un problème de CM1, où il y a 2 fractions, Il y a des gens qui commencent à dire mon cœur bat, j'ai la chaleur parce que je revis mes angoisses de fraction. Oh, c'est, mais ils me le disent. Et donc, on a trois phrases, quatre phrases, on a un entier, on a deux fractions. Comment faire? J'abandonne, c'est trop long, je ne comprends pas. Eh bien, on va regarder la méthode en barre, si c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. On discute d'abord des mots, les adultes, les enfants, femmes, hommes, enfants, garçons, filles. OK. Donc, je demande au prof, au formateur, vous donner quelle note de difficulté. D'habitude, c'est un 8, 9, 10 et parfois c'est un 12, 15. Ça dépend, ça dépasse. OK, regardons. Vous avez eu le temps de regarder les données. D'accord? Donc, voilà les gens au pique-nique. Un quart sont les enseignants. Donc, un quart, c'est 6. La dernière phrase ou l'avant-dernière me dit 6. Ensuite, un sixième du reste. On est après tout au primaire. On demande un sixième parce qu'on peut facilement faire des sixièmes à partir de 3 parts. On ne peut pas trop faire si j'avais 5 ou 4. Et donc, ils vont couper chacun en 2. Et j'ai les parents. Mais c'est combien? Eh bien, chaque quart est égal. Donc, je coupe un des quarts en 2, ça fait 3. Et ça veut dire que le reste est l'inconnu, les enfants. Mais chaque reste, chaque unité, ces petits rectangles, c'est des unités, ils les appellent, c'est 3. Donc, on a 3 fois 5, 15. Et là, vous avez un exemple d'un modèle en barre simple qui rend un problème jugé comme un 8, 9, 10, un 2, 3, 4, parce qu'il est tellement clair. Donc, c'est quelque chose, bien sûr, qu'ils apprennent dès le CP avec des barres en 3D, des cubes emboîtables. Et au CE1, c'est l'écriture, c'est le dessin. D'abord, au CE1, c'est fait pour eux. Et puis, peu à peu, ils complètent des parties avec des question marks, des coins. Et puis, quand ils arrivent au CM1 et CM2, ils construisent aussi à partir de zéro, ex nihilo, leur méthode en barre, leur modèle en barre. Ça s'appelle bar modeling. Hein. Et puis, ici, on l'a traduit en modélisation en barre. Un dernier mot que je voulais ajouter sur les problèmes. Parce que je suis contente de cet élément. Chaque fois, il y a une nouvelle édition. Comme il y a eu des programmes, on a une nouvelle édition. Je suis à la fin de ce travail. Et donc, j'insuffle des nouvelles idées, des nouvelles, à partir des recherches, bien sûr, des modifications. Donc, j'ai vu, à travers ces années que je suis là seulement depuis 2016, hein, et je travaille sur des formations un peu partout, en France et ailleurs, sur les maths en général, et souvent c'est sur la méthode de Singapour, parce que plein de pays l'ont adopté. Et donc, les enfants pensent qu'un problème mathématique a toujours une solution. Et ça, il faut vraiment casser ça dès le début. Donc, à partir du CE1, j'ai mis des séances qui s'appellent « Un problème, deux points, plusieurs stratégies, plusieurs solutions ». Il faut, bien sûr, beaucoup de problèmes qui sont simples ont une solution, mais il faut leur donner des problèmes avec différentes stratégies pour célébrer les différences et différentes solutions. Ah là là, il faut que je... Et 4, une construction profonde du nombre. Alors, vous avez eu plein d'informations sur la construction du nombre. Donc, c'est très long à parler, mais ce que je veux dire, c'est tout simplement, et vous pourrez lire, c'est qu'il ne faut pas qu'ils pensent que connaître un nombre, c'est 1, savoir l'écrire en chiffres, en lettres, et le dire 10, par exemple, ou 12. C'est beaucoup plus. Et voilà un schéma qui vient d'un de mes livres où j'ai marqué toutes les choses qu'il faut connaître. Il faut connaître les nombres comme ils décrivent le monde autour de nous, les comparer, les placer sur la bande numérique. Et donc, on passe des années à découvrir. Et chaque fois, chaque année, on apprend plus de propriétés. Et c'est rien à voir avec toutes les propriétés qu'on va voir au secondaire, comme les nombres abondants et les nombres irréels et les nombres irrationnels, tous ces mots. OK. Quelques attitudes. D'habitude, je commence avec ça, mais je voulais rentrer dans les maths pour être sûre d'avoir le temps de les faire. Mais les attitudes sont importantes et elles jouent un grand rôle. Si vous vous souvenez du Pentagone, c'était en haut. Et ce n'est pas par hasard que c'est en haut du Pentagone. Parce que si nos attitudes sont négatives, alors on a beau être bon en maths, on ne va pas y aller. Et il faut les engager par le plaisir. Donc, premièrement, Et ça, ça vient de confucianisme, c'est-à-dire, moi j'ai été élevée moi-même en Asie, au Vietnam, et j'ai pris le goût au primaire, tout le primaire, par une spécialiste en maths. Et là-bas, comme dans tous ces pays de l'Asie du Sud-Est, on n'y a pas de dichotomie de bon en maths, mauvais en maths, matheux et littéraire. C'est dichotomie néfaste, parce que les enfants s'approprient ces étiquettes. Et ils se donnent le droit de ne pas être bon, parce qu'on m'a dit « je suis littéraire ». Non, on peut être analytique et créatif en même temps. Donc, Carol Dweck, vous connaissez, je suis sûre, parle de « mind growth mindset ». Je développe, je crois, je change. Puisque j'ai fait une erreur, ça ne veut pas dire que je suis nulle. Je vais apprendre, je peux faire tout ce que je veux. C'est une culture de l'effort, et ça me relie à la conférence d'il y a 2 mois, le professeur Menger qui a parlé de l'effort. Et l'idée là-bas, c'est que tout le monde peut réussir si on travaille, on fait un effort très important. On n'est pas né, et malgré le magnifique livre de Stanislas qui est la bosse des maths, il a voulu démontrer puis redémontrer 15 ans après que il n'y a pas quelque chose qui s'appelle la bosse des maths ou l'occipital ici. Là. C'est un endroit où ils pensaient que les gens avaient une petite bosse qui reflétait le cerveau et qui était bon en maths. Non, on a tous la capacité, mais ça perdure et c'est destructif pour nos enfants et nos parents et nos profs. Tout enfant est capable de réfléchir et tout enfant a sa place au festin des mathématiques de la classe. Ils sont au festin. Ils apprennent ensemble et ils forment une communauté d'apprenants qui s'aident. On ne se moque pas, c'est OK d'avoir faux et on a tous une voix. On peut tous contribuer de façon ou d'une autre à un aspect du problème. Il n'y a pas les bons et les mauvais, il y a ceux qui taisent et qui se sentent marginalisés et qui sombrent dans un enfer de frustration et d'échec. Il n'y en a pas. Tout le monde est soutenu. L'attitude et la croyance que les maths sont belles, qu'elles sont importantes, qu'il y a de la valeur et qu'elles nous rendent puissantes et qu'elles sont utiles. Et toutes ces choses, ça se passe par les profs. Parce que nous-mêmes, il faut qu'on pense, les profs, si on est prof ou prof d'enfant, si on est parent, grand-parent, on enseigne tellement à nos enfants, à nos petits-enfants. Quelle est notre perception des maths? C'est quoi les maths pour nous? Il faut se poser ces questions. Parce que notre croyance, ce qu'on croit, pas dans le sens religieux, what we think, what we believe, ça se passe, ça se transmet. Donc il faut qu'on analyse ça. Donc c'est très travaillé. On raconte des histoires. Les histoires, on a parlé des histoires de division, mais les histoires, Jean-Paul Sartre l'a dit, tout le monde l'a dit, nous sommes des êtres qui adorent des histoires, les enfants surtout, parce que les histoires émerveillent les enfants. Donc, par exemple, on raconte cette histoire du petit Gauss qui a été puni parce qu'il était un management problem. Il était terrible. Il ne laissait pas enseigner le prof. Et il lui a puni pour additionner la somme des 100 premiers nombres. Eh bien, il a fait en 3 minutes. Pourquoi? Parce qu'il a vu quelque chose, il a vu une régularité. Vous pouvez voir ça en ligne. Eh bien, c'est devenu le grand mathématicien, et par entre autres, il nous a donné la formule pour la somme des 100 premiers nombres. Très facile. Peut-être ça va les exciter, les instiguer, les inciter à faire la somme des 10 premiers nombres, comme a fait Gauss. Pourquoi pas? Et ils auront trouvé 5 fois. Ça, c'est une façon intelligente de faire, et pas faire 2, et puis ajouter le 3e nombre, et le 4e. Ça, c'est thinking mathematically. C'est ça que je veux. C'est ça qu'on veut. On veut des enfants qui pensent. Histoire émerveille les enfants, racontée au collège ou au lycée. L'histoire d'Ératosthène, qui a trouvé la circonférence de la Terre, il y a 2000 ans, presque, environ, et qui a trouvé une erreur d'à peu près 600 kilomètres seulement. Toute une histoire, là aussi vous pouvez chercher, il y a des vidéos là-dessus. Il a trouvé la distance entre les deux avec des bémétistes qui ont fait marcher dans une ligne droite, aussi droite que possible, des chameaux. Et même si c'est un mythe, c'est pas grave, c'est émerveillement. Et il a trouvé que c'est 1/50 de la distance, à cause des mathématiques, des angles alternes internes, des mathématiques de collège. Et il a multiplié par 50 et il a trouvé la circonférence de la Terre. Tellement de belles histoires. Les histoires On raconte des histoires pour donner du sens aux mathématiques, pour comprendre le monde qui nous entoure, pour enchanter, pour communiquer, pour relier les gens et pour donner du sens aux mathématiques. Revendiquer le droit à l'erreur. L'erreur est un outil d'apprentissage. La grande dame Jo Bowler de Stanford qui dit « Mistakes make the brain grow ». Si on ne fait pas des erreurs, we're not going to grow. Il faut faire des erreurs pour apprendre. Donc on ne stigmatise pas une erreur, on ne dit pas « c'est faux ». Tu as fait faux, tu as compris ton erreur, maintenant c'est bien que tu as fait faux, parce que maintenant tu comprends. Et j'aime beaucoup cette citation de Christian Bobin, je vous la laisse lire. On ne peut pas nous ternir, on a tous fait des erreurs. Voilà un exemple d'erreur qui arrive tout le temps, et je donne ça. C'est assez difficile, hein, parce que l'axe de symétrie, elle est diagonale. Alors, ils n'ont pas toujours l'idée de tourner le jeu au plan. Ils le laissent comme ça, donc ils regardent comme ça. Et je veux la symétrie de cette forme. La difficulté, c'est qu'elle n'est pas parallèle à l'axe. Eh bien, voilà les deux résultats que je trouve tout le temps. Toujours, adulte comme enfant. Alors, je ne vais pas dire c'est faux, c'est juste. Ce n'est pas intéressant. C'est regarder d'abord lequel est juste. Alors, on explique. Il faut regarder. Donc, on prend celui de gauche. On met vertical et on compte la distance point par point, par exemple. Ou on fait, s'ils sont petits, on le trace sur un papier géoplan et on peut le plier et on voit que ça se superimpose. À droite, c'est pleasing to the human eye. Ça veut dire, ça fait plaisir à l'œil. Quelque chose nous attire. Pourquoi? Parce que la forme elle a été conservée, donc c'est un isomorphisme. Mais ce n'est pas une symétrie. Alors, au lieu de dire non, moi je dis, cet élève n'a pas regardé ou pris compte de l'axe. Il a répondu, ou elle a répondu à la question suivante. Et la question suivante, c'est la translation. Si j'enlève la droite, qui est l'axe de symétrie, et je connecte les sommets correspondants, j'ai la translation. Et la translation, c'est quelque chose qu'on enseigne au lycée. Donc voilà, on peut enseigner souvent il faut vraiment prendre les erreurs des élèves, leur demander la permission poliment. Est-ce que je peux prendre ton erreur pour m'aider à enseigner? C'est ce que je fais. Et s'ils me donnent la permission, parce que je leur dis, tu vas aider beaucoup d'élèves, beaucoup d'enfants avec ton erreur. Et si elle dit oui, je montre. Ou si il dit oui, je montre. Donc, cultiver le plaisir, il faut qu'on remplace l'anxiété, parce qu'il y a beaucoup d'anxiété, avec le plaisir de faire des maths. Et ne pas oublier que les émotions sont, donc les aires des émotions, et Stan me corrigera si j'ai faux, sont liées à la mémoire. Qui ne se souvient pas où il était, où elle était, quand les tours de New York sont tombées? On a tous le souvenir, parce que l'émotion était tellement forte qu'on a le souvenir d'exactement d'où on se venait et où on allait. Moi, je me souviens, j'allais à Narbonne pour faire du vélo. Donc, voilà. Les émotions. Donc, si les émotions sont fortes, positivement, ils vont se souvenir. Et la phrase en bleu vient du livre « Apprendre » de Stanislas. Il faut associer plaisir, apprentissage, surtout en maths. Et « the limbic system ». Bien. Alors, très bien, ça va. Les mathématiques vivent. Alors, je vais parler maintenant des... Alors, est-ce que j'ai oublié le... Oui, j'ai oublié. Oui, les compétences. Ça devait être après ça, pardon. Excusez-moi. Ce slide venait après. Bon, donc, au centre, nous avons le programme. Dans la plupart des pays, ce sont les grandes idées. Mais tout ce qui est autour, ces compétences physiques et mentales de haut niveau, hein, qui font vivre les mathématiques, qui font interagir les enfants avec les mathématiques, qui prennent le livre entre la première et quatrième de couverture, où souvent on pense que les maths vivent, alors qu'un roman, une histoire et un film, on en parle et on s'excite. Mais les maths, il faut ouvrir la page 35. Non, il faut vivre les maths en communiquant, en expliquant, en représentant, en justifiant, en modélisant, en résolvant. Voilà, tous ces verbes. Donc je voudrais regarder une par exemple, justifier. Justifier, ça, c'est le début de raisonner. On raisonne. On ne dit pas oui, c'est ça, ou non, c'est pas ça. On dit pourquoi. Donc là, c'est un problème, je vous laisse lire. C'est un enfant de CE1, c'est un problème. Et c'est pas facile. Combien Alors, je vous laisse. Combien de cartables Tom a vendu le plus le dimanche, le samedi que le dimanche, ou le vendredi que le samedi? OK? Eh bien, regardez les différentes explications d'un enfant de CE1. Alors, un, c'est sur la ligne numérique, j'ai compté à partir du 17 jusqu'à 24. 34. C'est pas très efficient, mais c'est pas grave. C'est la première fois et après, on choisit les stratégies les plus efficientes, les plus expertes. Une autre a dit, j'ai découpé. J'ai fait 17 à 20, 20 à 30, 30 à 34. Et ça, c'est un petit rappel. Je voulais vous dire que depuis qu'ils sont au CP, on additionne et on soustrait sur la bande numérique. Parce que au collège et au lycée, l'axe des X, l'axe des Y et l'axe des Z est central en mathématiques. Il faut exploiter la bande numérique dès les petites classes. Troisièmement, cette personne a dit que je sais que 15 et 15 font 30, donc 34, c'est 2 et 2 de plus. Donc il a trouvé 17 et 17 en utilisant les doubles. Celui-là, il a fait une méthode en barre, c'est-à-dire a fait 2 barres et a vu la différence. Mais il a fait un calcul intéressant. De 17 à 27, de 27 à 37, ça fait 20, et j'ai enlevé 3. Parce que c'est pas sympa de faire 34 et de poser moins 17. C'est pas sympa parce qu'il y a le 4 est plus grand, le 7 est plus, pardon, le 4 est petit et le 7 est grand. Donc on veut pas faire ça. Et souvent les enfants changent, ils inversent. Et le dernier, et ça arrive tout le temps, mais une personne a fait ça. Quand ils font les additions, ils construisent les deux nombres avec les blocs de base 10. Ils ont le 34 et le 17. Et quand ils additionnent, ils mettent ensemble. Et quand ils soustraient, souvent, même les guides pédagogiques, parfois j'ai vu dire, quand tu soustrais, tu ne construis pas le deuxième nombre. Tu construis le grand et tu enlèves le petit. Et ça veut dire quoi? Qu'on favorise le sens du retrait. Mais le retrait, c'est un sens de la soustraction qui est très bon au début, mais c'est pas le sens qu'on utilise plus tard. En algèbre, la différence entre x1 et x2 sur une droite, c'est la distance. C'est la différence, c'est pas un retrait. Bon, donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis le vert sur le bleu. Donc, premier étage bleu, deuxième étage vert, et a vu, sans rien faire, la magie de la réponse. Il y a un 10 et un 7 en bleu qui ne sont pas couverts. C'est la différence entre les deux. Oui, c'est pas mal, ça. Voilà, les petits génies, si on les écoutait. Processus, mais c'est vrai. Alors, pendant que j'écrivais ce livre qui explique, parce que tout le monde me demande toujours d'expliquer, alors il y a l'histoire, il y a la recherche, et ça, j'ai pas voulu tout faire ça, j'ai choisi des éléments. Pendant, j'ai fait un truc sur... j'ai cherché le mot « analyser ». Et en grec, le mot « analyser »,« analysis », veut dire en fait décomposer le tout en ses parties, regarder les parties puis les remettre. Et le décomposer et recomposer, c'est quelque chose qu'on fait partout en mathématiques. C'est un article que je suis en train d'écrire pour montrer que dans tous les domaines et à tout niveau, on fait ça. Je vous donne quelques exemples. Là, quand on a un « pattern », un enfant de CP, il va décomposer pour voir le truc répétitif. Pour les décomposer, quand on a un cube, il est en 3D. Mais quand on le décompose, il a des faces qui sont 2D, des arêtes qui sont 1D et des points, des sommets qui sont 0D. C'est pas beau, ça? Quand j'expliquais ça dans une classe avec des kindergarten, il disait 3D, il y avait un cube. Et puis j'ai dit, ces faces, c'est des 2D. Après, il me dit, is there a 1D? Et puis j'ai montré les arêtes. Et après, is there a 0D? C'est incroyable, parce que la curiosité, elle est là. Si on va de 3D to 2D, il y a sans doute des 1D et des 0D. Donc je lui ai dit, il a compris ce qu'il a compris. Troisièmement, quand on fait la multiplication au milieu, quand on la décompose, parce qu'à gauche, c'est la façon dont on le fait, mais on ne voit pas, c'est un peu caché. Là, on a 4 produits, 30 fois 20, 30 fois 4, 4 fois 20 et 4 fois 7. Les 4. On voit et on décompose en produits partiels pour avoir le produit total. Au CM1, CM2, quand on a des formes différentes, qu'on veut trouver l'air, on décompose la figure en demi-cercle, carré, rectangle. Quand on regarde des formules, par exemple, d'associativité de la multiplication, on peut le décomposer, faire un cube et voir à gauche 4 fois 3 fois 2 et à droite voir 4 fois 3, donc 12 fois 2, 2. 2,12. Donc on peut prendre le même solide et montrer en les décomposant une propriété algébrique. Et enfin, au collège, quand on veut calculer la somme des degrés dans un polygone, qu'est-ce qu'on fait? On décompose en triangle et on sait que chaque triangle a 180 degrés, donc on multiplie par 3 dans ce cas. J'arrive à la fin, ça va ces exemples? Ok? Chacun est différent, mais il y en a plein d'autres. L'autre chose, mais je vois que je ne peux pas, c'était faire des liens, mais ça va être pour une autre conférence. La pensée algébrique, c'est comme a dit Stan, c'est un de mes dadas, on va dire, ça fait des années depuis mon premier livre en 2012, qui, parce que le mouvement de Early Algebra est international, est très discuté et important aux États-Unis, algebraic thinking, et je suis ravie que les nouveaux programmes parlent de la pensée algébrique. Malheureusement, c'est seulement au cycle 3, ça peut commencer dès les petites classes. Donc, j'ai deux exemples, peut-être je peux les faire les deux. Un de CE1, c'est on apprend les nombres pairs et impairs. Donc, pour les nombres pairs, ça c'est la fin de la séance, quelqu'un a fait ça, je vais revenir, mais pour les nombres pairs, c'est les jaunes. Je leur montre un bus de Hong Kong, parce que moi-même, quand j'étais à Hong Kong, quand j'étais petite, j'étais fascinée par les bus rectangulaires, parce que je venais de l'Amérique. Après, je suis passée en Asie en 4-5 ans, et j'ai vu que c'était vraiment rectangle. Je savais pas que ça venait de Londres, j'avais pas encore été à Londres. Donc voilà, les rectangles, donc c'est des bus à deux étages. Donc il y a 2x2, 2x3, 2x4, et ils les construisent, et on en parle. D'abord, c'est les couleurs, ensuite c'est les formes, mais après, ils voient que c'est une structure. C'est toujours deux groupes de. Et puis pour les trucs en orange ici, les nombres impairs, on les construit et je donne comme image, pas le bus, mais un transporteur de voiture. Donc ça c'est la cabine toute seule, ça c'est avec 2 voitures, 3, 4 voitures, 6 voitures, etc. Donc ils voient la construction géométrique et ils voient la construction algébrique. On voit que ces deux groupes égaux, ça donne 2n. C'est ça qui va avec le temps. Ils disent pas 2n, mais ils disent 2 groupes égaux. Et pour les nombres impairs, ils disent 2n plus 1. Ils disent 2 groupes et 1 de plus. Hein? Et donc, ça les aide à garder une mémoire de l'image mentale qui, attendez, je vais vous montrer ça, qui, si on fait un saut rapide au lycée, quand ils doivent montrer que 2 impairs donnent un nombre impair, ils ont déjà fait la manipulation avec un impair de leur et un impair d'un voisin de couleur. Ils le retournent. Bien sûr, ce n'est plus le chauffeur parce qu'il serait sur sa tête. Donc on passe à l'abstrait ici ou à semi-abstrait parce qu'on n'est pas encore dans l'abstrait. Et cette démonstration que vous avez tous fait à l'école, qui dit 2n plus 1, c'est les 2 nombres impairs, on les additionne, etc. Et les deux chauffeurs se retrouvent au milieu. Ils font encore un groupe de 2, on met tout en facteur et on a un nombre pair. Donc ils apprennent que 2 camions donnent un nombre pair, qu'un bus et un camion, il y a toujours le camion, la cabine qui est seule, et deux impairs donnent un pair. 2 paires donnent un pair et un des deux donne. Si j'ai un impair et j'ai un pair, ça reste un impair. D'accord? Donc, je ne sais pas si j'ai le temps de l'autre, mais c'est pour dire qu'ils ont la forme géométrique et la forme algébrique en même temps. 2n plus 1, elle construit vers, mais la géométrique ne la parle pas. Et ce que je voulais dire ici avec la découverte de Alexandre, et c'est une belle façon de terminer, c'est que Stan est d'accord avec moi là-dessus qu'il faut croire en chaque enfant qu'il est capable de réfléchir mathématiquement. Ça, c'est m'est arrivé, c'est dans un de mes livres parce que j'ai enregistré. C'était à la fin d'une séance avec 4 classes et c'est tous second grade, donc CE1. Et à la fin, première séance, on n'avait pas encore regardé les chiffres. Parce que vous savez, on apprend un nombre pair, c'est un nombre qui se termine en. Un nombre impair se termine en. Mais ça, c'est cosmétique, c'est visuel. Ce n'est pas la structure, ni algébrique, ni mathématique. Je ne sais pas que dans 21, il y a 2 groupes 2 plus 1. Ou que dans 83, il y a 2 groupes 2, quelque chose, plus 1, 41 plus. Donc celui-là, il dit, j'ai mis les voitures sur le highway. Et Dr. Monica, 0 is odd. 0 est pair. Alors moi, étonnée, je dis, professeur, viens. Donc le professeur arrive, alors les enfants ne comprennent pas, mais le professeur, c'est lui qui professe. Donc il dit, j'ai mis mes camions et mes bus sur l'autoroute et j'ai vu que ça va pair, impair. Donc il a vu l'alternance. Et ça, ça a été fait grâce aux couleurs. Si c'était n'importe quelle couleur, il n'aurait jamais vu ça. Bon. Et puis il dit, avant le 1, il n'y a rien. Mais s'il y avait, donc il est déjà dans l'abstraction, ce serait un 0. Mais il n'est pas là, parce qu'il n'est pas là, mais il est vrai. Et il serait jaune. Et moi, je ne dis pas bravo, je dis une question, Alexandre. On a vu que tous les jaunes, jusqu'à 10, jusqu'à 12, c'est deux groupes de quelque chose. Est-ce que le 0 rentre dedans? Vous voyez la généralisation? Est-ce que ça rentre dans ça? Et vous savez ce qu'il me dit? That's easy. 2 times nothing is nothing. Donc, il a compris, ça c'était sa langue, son langage naturel, mais il a compris que c'est 2 fois 0 égale 0, donc c'est 2 n. That's easy, il dit. Il a vu ça. Donc voilà. Do not underestimate. Ne sous-estimons pas nos enfants. Et donc voilà, je voulais terminer avec les mathématiques, c'est une aventure. Si vous aimez la marche, moi j'adore découvrir. On découvre les lacs, les montagnes, les rivières, les sapins, les tout. Eh bien, les mathématiques, on va à la découverte et on va avec eux. On n'est pas là pour leur dire comment faire ou dire comment penser. On les écoute, on les met dans la bonne route, bien sûr. Il y a toujours l'expertise. Mais ce qui est important, c'est qu'ils contribuent, c'est qu'ils parlent, c'est qu'ils aient des idées, qu'on développe des enfants qui réfléchissent. Mathematical thinkers. Les mathématiques, ce n'est pas une porte fermée, mais une porte ouverte vers un futur glorieux. Merci pour votre attention.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.